Ouais, salut à tous. C'est Olivier, là, futur résistant des Glières, j'espère bien, là. Putain, mais on va l'attendre au mois de mai, le Zébulon, là. On va l'attendre au mois de mai, là-haut, à côté d'Annecy, sur le plateau des Glières, là. On l'attend de pied ferme, cet enfoiré, là. Bisous à tous, bon courage.
L'émission vient juste de se terminer. Et je me demande qui est cette femme qui ose insulter la dame d'hier qui disait très justement que l'honneur pouvait revenir aussi aux inconnus. Comment peut-elle se permettre de l'insulter de cette façon? C'est une honte. Ben aujourd'hui, ben j'ai encore pleuré. Et puis voilà, je vais avoir 72 ans. J'ai pas connu la guerre. J'ai été une petite fille relativement protégée. J'ai connu un bombardement, mais j'ai pas eu de famille persécutée ni morte. J'ai découvert toute seule les camps de concentration dans une exposition quand j'avais 10 ans à Niort. Et depuis toujours, ça me tracasse beaucoup, toutes ces choses-là. Et j'ai honte. J'ai pas voté, mais j'ai honte qu'on ait pu voter pour un monsieur comme monsieur Sarkozy. J'ai honte pour tous les autres.
Monsieur Mermet manie l'euphémisme. Ils sont morts pour la France, dit-il, et leur idéal, que c'est beau. Oh, on en pleurerait presque. Ils sont morts pour leur idéal et, accessoirement, pour la France. Vos amis, Mermet. Leur idéal, il avait un nom, vous pouvez préciser, parce que les islamistes ont un idéal. Hein. Vous pouvez préciser leur idéal? Il avait un nom, un pays, un chef, l'Union soviétique, Staline, ça c'est plus concret, c'est plus situé historiquement. Mermet, arrêtez, votre langue, vos doigts, votre pensée, tout est malpropre. N'essayez pas de rouler le bon peuple, hein, que vous méprisez d'ailleurs, comme vos prédécesseurs dans la farine.
Allô, bonjour monsieur. Je voudrais féliciter Daniel Marmet et vous tous, du reste, pour toutes les émissions que vous faites, surtout celle de cet après-midi. Parce que moi-même, j'ai mon père qui est mort pour la France, j'ai ma mère déportée aussi, je m'appelle Marie Zagouri et je veux vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour, surtout pour les déportés, pour tout ce que vous avez fait. Excusez-moi monsieur d'être si longue. Au revoir monsieur.
Bonsoir Daniel, c'est Jacques de Liège. Avant la France avait, c'était bien connu, la droite la plus conne du monde. Et à force d'écouter tes émissions, je m'aperçois que ça a bien changé. Et maintenant, nous avons la gauche la plus conne du monde. Et malheureusement, tes auditeurs, à les entendre sur le répondeur, me paraissent en pointe. Alors moi, je suis frappé de voir que tout le monde s'engouffre comme de vrais bébés sur les petits portillons qui étaient ouverts par Sarkozy pour de faux combats. Alors j'entends des petites profs très sympas qui sont très fiers, qui ont été résistantes parce qu'elles n'ont pas mis la lettre de moquer. L'ADN, il y a 9 pays européens, les plus nordiques et les plus démocratiques, dont la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, etc., qui ont adopté ce système. On oublie complètement que la dernière mouture de la loi française, c'est que les femmes seules peuvent demander un test ADN dans leur intérêt, et si un juge l'accorde, et ce sera en plus gratuit. Donc je vois pas en quoi c'est vraiment choquant. Par contre, pendant ce temps-là, les grands portails du mondialisme capitaliste financier s'engouffrent dans la France de Sarkozy. Les derniers verrous qu'on avait pu mettre n'y sont plus. On voit très bien les collusions actuelles. C'est même plus des collusions, c'est une domination du pouvoir économique financier. Et là, la gauche, elle est muette. Et la gauche, elle applaudit parce que Strauss-Kahn, grâce à Sarkozy, est nommé président du Fonds monétaire international.
L'étude de la détérioration des conditions de vie sur la planète conduit à la conclusion que la croissance de la consommation en est la cause principale. En mettant en place en même temps un Grenelle de l'environnement et une commission Attali chargée de libérer la croissance, Nicolas Sarkozy n'est ni fou ni cynique. Il est simplement victime, comme nous tous, du Grenelle du conditionnement qui fonctionne à la perfection depuis plus de 30 ans. Sur France Inter, Nicolas Demorand s'honorerait en invitant enfin un partisan de la décroissance au lieu de faire traiter, ou plutôt de faire masquer, de faire nier le problème par Jean-Marc Sylvestre ou même par Bernard Maris, lui aussi acquis à la désastreuse fuite en avant dans la négation. C'était Pierre dans l'Essonne.
Oh, mais Pierre, on va vous satisfaire, là, d'ici à 16h, dans la base, si j'y suis. La décroissance, on en a parlé quand même de temps à autre. Ça arrive sur France Inter, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le samedi. On en parle un petit peu quand même de temps à autre. Mais c'est vrai que la grande question, elle est bel et bien là. Croissance ou écologie, que choisir, amis consommateurs? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Le beurre et l'argent du beurre, c'est pas certain du tout, du tout, du tout, du tout. La croissance, c'est n'importe quoi. Si la guerre fait des sous, si le tabac fait des sous, eh bien, ça fait de la croissance. Donc, la croissance est absurde, ça n'a pas de sens. Si, alors, soi-disant, ça fait des emplois, ça crée des emplois. C'est toujours l'alibi de la croissance. Et puis, il y a la question, évidemment, de l'écologie. On va le voir à travers une cette heure que nous allons passer ensemble. En camion, on va faire un tour en camion. On sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs routiers qui nous écoutent fidèlement, d'ailleurs, de plus en plus, et ça nous fait bien plaisir. Et on va aller voir un petit peu comment ils vivent. Enfin, plutôt ce qu'ils transportent, ce qu'ils ont derrière le volant, ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils transportent? Et où ça va, ce qu'ils transportent? Et qu'est-ce qu'ils transportent d'abord? Est-ce que ce serait pas du gâchis et une absurdité totale, une absurdité coûteuse, une absurdité extrêmement coûteuse et qui porterait atteinte véritablement à l'environnement, mais qui effectivement pourrait faire de la croissance. Croissance ou environnement? Que choisir? On aura peut-être la réponse demain, même si certains en doutent. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, ici Jean, du repère de la basse, j'y suis, de Brest. Je voulais donc lancer un petit appel aux auditeurs de Brest et environ. La prochaine réunion du repère de la basse, j'y suis, aura lieu le jeudi 25 octobre au café de la plage Place Guérin à partir de 19h30. Nous espérons y voir des nouveaux venus, toujours les bienvenus. Allez, salut à tous.
Bonjour à tous, c'est Philippe de Haute-Savoie et de Suisse. Alors, vous avez parlé des élections suisses qui ont désastreusement élu l'UDC. Et vous avez dit que c'était un parti fasciste, alors je voulais quand même dire que c'est heureusement pas tout à fait un parti fasciste, mais c'est clair qu'il pue, et il pue très fort. Ces gens-là sont pas des humanistes. Alors voilà, je voulais faire un petit salut confraternel des lutteurs de Suisse qui écoutent les lutteurs de France. Allez, salut à tous, au revoir.
Allez, salut, oui, j'appelle... il est 19h30 et donc je m'apprête à faire le petit geste écologique demandé par l'État français de couper la lumière pendant une minute. Malheureusement, on m'a coupé l'EDF m'a coupé le courant. Donc je ne peux pas participer à cette aventure. Voilà, la pauvreté est donc l'ennemi de l'écologie. D'ailleurs, je voudrais citer une petite phrase magnifique de d'Armand Faraci tiré des Ennemis de la Terre. Je pense que vous devez connaître tout ce livre. Je cite « Ce qu'il y a de terrible dans la misère, ce n'est pas la pitié qu'elle provoque, mais la révolte qu'elle n'engendre pas. » Voilà, salut et merci pour tes émissions à l'ancienne. Tu nous refais des émissions comme ça en ce moment, ça fait du bien avec la belle musique derrière et tout. Les vieilles émissions d'antan. Salut.
Salut Daniel, c'est Serge à Lyon. Aujourd'hui, je suis content et rassuré. Ces dernières années, le pouvoir d'achat des ménages a progressé grâce à l'électroménager et l'électronique. Comme ça, si je peux plus me payer mon loyer, j'irai pour habiter dans un carton de téléviseur. Et le soir, je me ferai une soupe de au portable. Elle est pas chouette, la vie?
Salut Daniel, salut les AMG. C'est à propos de l'ADN, les lois qui viennent juste de passer, là, joyeusement. Je fais de la recherche en génétique, et j'étudie l'ADN de chien. Avec les collègues, on se dit que telle ou telle race, de chien bien sûr, pourrait être originaire de telle ou telle région du monde, ou pourrait éventuellement avoir flirté avec un coyote, un chacal, ou un loup. Mais bon, on sait pas trop, on n'est pas toujours d'accord. Nous sommes des chiens. Alors aboyons avec des armes dans la gueule. Des armes blanches et noires, comme des mots noirs et blancs, et noires comme la terreur que les pour et les abstentionnistes assumeront, blancs comme la virginité violée que nous ne devons plus assumer. Nous sommes des chiens, et nous savons mordre. Je vous fais plein de bisous baveux, plein d'ADN, à tous, et à Léo aussi. Enfin, des léchouilles, quoi, des lapouilles. Des trucs de clébard muselé, quoi. Guillaume de Bordeaux, salut.
Bonjour, alors un petit rappel, le repère de là-bas si j'y suis en Vendée a de nouveau creusé son terrier et on se retrouve ce jeudi 25 octobre à 20h30 au sympathique bistrot, La Pitchouli, toujours le même. C'est place de la baie Grelier à Chalons, c'est à côté du clocher Beffroi, entre la poste et l'église, c'est facile à trouver. À tout bientôt.
Bonjour. Un festival de cinéma existe depuis 8 ans et n'intéresse pas beaucoup les médias nationaux. Et oui, ce n'est pas Cannes, mais une petite ville industrielle de la banlieue du Havre, Gonfreville-l'Orcher. Sa particularité, 25 jeunes de 12 à 25 ans le mettent en œuvre, choisissent des films en compétition et mettent en œuvre toutes les activités. 40 jeunes européens de 7 pays différents font leurs films durant la manifestation et surtout se rencontrent et échangent sur le monde. Alors venez jusqu'au 31 octobre et puis consultez le site de notre festival. Donc c'est www.dugrainadesmoudres.net. Dugrainadesmoudres.net, c'est le titre du festival. Merci infiniment de transmettre cette information. Au revoir.
Voilà, donc c'est Tahar de Blois pour les AMG de Blois. Eh bien, notre rendez-vous de l'histoire, ou rendez-nous de l'histoire, s'est très bien passé. Et à ce propos, donc je rappelle que nous nous retrouvons le jeudi soir, comme d'habitude, au Café Liberté, 21 avenue du Président Wilson, à Blois. Et là, ben, j'invite cordialement tous ceux qui sont passés au stand du plan B, de Acrimed, sur les rendez-nous de l'histoire, à nous rejoindre aux Libertés, puis on continuera les conversations que nous avons eues. À bientôt.
Le petit Nicolas aime bien les résistants morts. Le petit Nicolas aime bien les résistants morts.
Aïe, 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 aïe. C'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis, avec François Ruffin, la croissance ou la vie.
Flight number 2, arriving from New York.
Là-bas, on voit le Mont Blanc, donc, qui émerge du petit cumulus, et puis le glacier qui descend là jusqu'à la forêt. Ce glacier qui a quand même bien diminué ces dernières années là. Ces 10 dernières années, il y a eu un recul glaciaire dans la vallée de Chamonix et dans les autres vallées alpines d'ailleurs, qui est considérable, qui est de plusieurs centaines de mètres.
Là, Christine Mattel, on se trouve devant la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc. On a décrit le paysage en hauteur, hein, on a le nez dans les nuages, mais au ras du sol, très concrètement, il y a trois camions italiens qui viennent de passer. Il y en a un quatrième qui passe, un cinquième derrière. Ouais, voilà.
Et voilà, ça pue, ça tue, c'est cher. Et le gars qui tient le volant est payé avec un lance-pierre. Vous avez reconnu, c'est le transport routier. Vous connaissez, vous êtes dans le camion ou bien vous êtes coincé entre deux camions. Eh bien, c'est là que vous allez passer 7 heures heureux et souriant avec la basse si j'y suis. D'abord, je vais vous parler d'un certain David Morris. C'est un gars qui habitait dans le Minnesota, dans la bonne ville de Saint-Paul. Et un jour, il était au restaurant et il prend un cure-dent en bois. Il voit que le cure-dent est dans une petite enveloppe de plastique. Vous savez, ces petites enveloppes de plastique. Et c'est écrit « Made in Japan ». Ah, il dit « Tiens ». le David Morris, il dit tiens, c'est curieux quand même, mais le Japon produit très très peu de bois et pas du tout de pétrole. Et malgré ça, il est devenu sur cette planète rentable de... dans notre planète et dans notre économie mondialisée, il est devenu rentable de transporter des morceaux de bois et des barils de pétrole au Japon et d'y envelopper les uns dans le dérivé des autres et d'expédier le tout, le produit fini, au Minnesota. Il calcule, toujours David Morris calcule, et il se dit, mais tiens, c'est quand même curieux, ce cure-dent, avant d'arriver dans ce petit pot qui est devant moi dans mon restaurant, et avant que je m'en serve pour nettoyer mes dents, eh bien, il a dû faire à peu près 80 000 kilomètres. C'est quand même pas mal pour un cure-dent, 80 000 kilomètres. Mais à côté de chez lui, à côté de chez David Morris, dans le Minnesota, toujours, une usine de Hibing produisait 1 milliard de baguettes pour restaurant, pour manger, voilà, dans un restaurant chinois ou japonais, par exemple, produisait 1 milliard de baguettes jetables par an, destinées où ça? Eh bien oui, au Japon, vous avez deviné. Si bien que David Morris imagina ce qui se passait dans le Pacifique Nord. On pouvait tout à fait imaginer que deux cargos se croisent, l'un transportant vers le Japon des petits bouts de bois du Minnesota, l'autre des petits bois du Japon vers le Minnesota. Telle est la logique du libre-échange et tel est ce que la croissance supporte, sous-entend et dont la croissance n'a absolument rien à faire. La croissance, c'est la croissance. Si ça fait de l'argent de transporter, eh bien, c'est tant mieux. C'est de la croissance, c'est de la croissance. La croissance ou la vie, c'est jusqu'à 16 heures. Et c'est la basse vie.
Detersivo, atmosfere spray, camion cascarlio, merda e vissi, altro che blue sky. Container anonimi a giro il mondo, senza passaporto, perché assa che i pipu tenta riesco a vendere coi gli scarta.
Ben ojo le basura, tan se pele cual la binana. Ngamu a mi yeka le meleto, nungulu pan con si wong mese. Y toga te crema yongo manco yo, pala samba lo wo a wo. Y lo minche le mambe de mana, la beba civilize o.
Basura, mande pa sa cancela.
Basura,
protege la natura.
Je vais vous dire, moi j'ai 54 ans, je commence à en avoir ma dose. Là maintenant c'est bon, j'en suis saturé de l'Italie. De toute façon il y a trop de trafic maintenant. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être à la retraite là. L'année prochaine si je peux j'arrête, ça ira bien comme ça. 32 ans de route c'est bon.
Vous qui êtes camionneur, vous dites qu'il y a trop de trafic maintenant?
Ah oui, il y a trop de camions. Beaucoup, il y a trop de camions sur les routes. Ça c'est évident, évident. Puis les camions ils suivent de trop près, ça devient à la limite dangereux. Hein. Dangereux.
Donc vous, Patrick Attiel-Müller, vous seriez en faveur du ferroutage ou de ce genre de choses-là?
Moi, ouais, ça m'est complètement égal, l'année prochaine, j'arrête.
Donc vous venez pas en vacances à l'air de Passy?
Non. Je fais mon travail, quoi. On m'a dit de passer par le Mont-Blanc, c'est tout.
Et vous livrez quoi alors?
Du cochon. Jambon, épaule, tout ce qui est en viande fraîche. On travaille pour les abattoirs du côté de chez nous et puis on livre sur l'Italie.
Et vous trouvez qu'il commence à y avoir trop de camions? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, on va voir les anciens, là, il y a bien plus qu'avant.
Il me reste 2 ans à faire et vivement, je me casse. À plein le cul, on peut plus rouler. Hein. Oui, il y a beaucoup de camions, beaucoup. On peut pas dire trop parce que ça serait cracher dans la soupe.
Ouais, mais on peut souhaiter autre chose quand même.
C'est mal parti, hein, autre chose. Parce qu'il y a prévu plus de camions encore par la suite, là. C'est prévu, comme ça, qu'il y aura beaucoup plus de transport routier qu'avant, quoi. Ça va augmenter, pareil. Parce que le train, le fait, le rail route, comme ils disent, c'est pas encore là d'être fait, hein. Quand on voit, on devait prendre le train ce matin, il y a des horaires tout à respecter et tout, on peut pas, et puis.
Vous aviez prévu de prendre le train ce matin?
Non, c'était prévu. Mais comme au chargement, ça a traîné un peu, on a loupé le rendez-vous. C'est tout. Mais c'est vrai qu'en plus, la France, elle est en plein milieu, hein. Vous voulez faire comment? Il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, Portugal, la France, elle est en plein milieu. Là, vous voulez faire comment? C'est l'Europe. C'est ça, c'est l'Europe.
Vous êtes archaïque. Voilà ce qu'on disait il y a bientôt 40 ans, il y a 35 ans, un peu plus. À ceux qui, dans un journal qui s'appelle La Gueule Ouverte, ou des gens comme GB, vous souvenez de GB, ou Rezer, le dessinateur Rezer disait, la bagnole, il faut arrêter, le pétrole, il faut arrêter, le camion, il faut arrêter. On disait, vous êtes cinglés. Ils étaient minoritaires, ils étaient très très peu nombreux, ils passaient pour des allumés. Et il se peut que on ait pris conscience quand même des problèmes posés par la circulation, par la voiture, par le pétrole, etc., et par le transport routier, puisque parmi l'heure des choix, il va falloir choisir, on trouve le ralentissement de l'extension du réseau routier. On n'en est quand même pas encore à supprimer, mais on irait vers un ralentissement de l'extension du réseau routier en créant une éco-redevance kilométrique pour les poids lourds par l'introduction d'un bonus-malus sur les véhicules particuliers en fonction des émissions de polluants. C'est possible, on ne sait pas trop. En tout cas, comment ça fonctionne tout ça? J'ai raconté l'histoire du cure-dent et des baguettes japonaises. On va voir comment quelqu'un comme Philippe Mulstein, qui est ingénieur et que nous rencontrons dans ce square d'Annecy, Annecy, Haute-Savoie, au pied du Mont-Blanc, non loin donc du tunnel du Mont-Blanc, comment Philippe Mulstein voit les choses.
J'anime un groupe de travail sur les transports, où nous essayons de faire le lien entre la politique des transports et ses conséquences en termes environnementaux et sociaux avec le libre-échangisme et la mondialisation capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui.
Alors là, je suis allé faire mes courses avant de vous rencontrer. Je suis allé faire mes courses à Carrefour parce que je suis pour la politique salariale qui est menée. Je voudrais pas que le futur PDG parte dans de plus mauvaises conditions que le précédent. J'ai acheté des yaourts Danone. Là, il y a une crevette. Là, il y a une patate. Et il y a une bouteille d'eau minérale Evian. Là, je les passe sur le banc dans le square.
Alors effectivement, sur ces marchandises-là et aussi sur d'autres marchandises, on pourrait dire beaucoup de choses. Dans ce pot de yaourt que vous avez acheté, il y a 3500 kilomètres. 3500 kilomètres, pourquoi ? C'est une étude qui a été faite par des économistes très sérieux d'un institut allemand qui se trouve à Wuppertal. Ils ont vu que les différents composants de ce pot de yaourt étaient fabriqués dans différents pays en Europe et qu'au total, il avait fallu 3500 kilomètres de transport de marchandises pour fabriquer ce pot de yaourt. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fabricant, donc ici Danone, va faire fabriquer les différents composants dans les pays où ça lui coûte le moins cher. Où ça lui coûte le moins cher en termes de matières premières et surtout où ça lui coûte le moins cher en termes de main-d'œuvre. Donc voilà, il y a 3500 kilomètres qui ont été faits dans un pot de yaourt.
Alors pour cette bouteille d'eau minérale Evian, vous savez combien il y a de kilomètres ou...
Non, je ne peux pas vous donner le même chiffre pour la bouteille d'Evian. Ce qui peut poser question à propos des eaux minérales, c'est de constater qu'en France, entre les usines d'Evian, Volvic, Contrex, Séville, Vitel et j'en passe, nous avons un excédent de production d'eau minérale par rapport aux besoins nationaux. Nous exportons. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est que nous importons aussi de l'eau minérale, notamment en provenance d'Écosse. Donc toujours à grand renfort de transport et donc de pollution. C'est ça qu'il ne faut pas oublier derrière.
Donc cette patate, vous avez des histoires de patates également ?
Vous savez que les Allemands cultivent beaucoup de pommes de terre en Allemagne. Et il y a un gros vendeur de pommes de terre tout épluchées, tout empaquetées allemand, qui vend essentiellement sur le marché national allemand. Mais les pommes de terre sont récoltées en Allemagne, sont envoyées dans le sud de l'Italie, là où la main d'œuvre est très peu chère, donc avec un transport en camion sur 1000 ou 1500 kilomètres. Et là, elles sont épluchées, nettoyées, et elles remontent en Allemagne, de nouveau transport en camion, 1500 kilomètres, donc où elles seront conditionnées au goût allemand et vendues sur le marché allemand.
Donc dans une patate allemande, il y a 3000 kilomètres.
Dans les patates de ce producteur, de ce vendeur de patates tout épluchées, oui, il y a 3000 kilomètres.
Alors, dernier aliment présent ici, c'est une crevette. Vous avez également des histoires de crevettes ?
On pêche beaucoup de crevettes en mer du Nord, mais les crevettes, les consommateurs aiment bien qu'elles soient toutes épluchées. Et alors les crevettes danoises, eh bien, elles traversent le Danemark, elles traversent l'Allemagne, la Belgique, elles traversent toute la France, elles traversent l'Espagne et elles vont jusqu'au Maroc. Et là, elles seront dépiautées, décortiquées et ensuite, elles seront retransportées de nouveau au Danemark, d'où elles repartiront pour aller vers les marchés de consommation européens.
Donc elles font le Danemark, elles sont pêchées au Danemark, elles sont dépiautées en Maroc, renvoyées au Danemark pour être renvoyées à nouveau sur les différents marchés. Donc là, ça fait largement plus de 3000 kilomètres.
Oui, tout à fait. C'est un périple assez extraordinaire.
Alors, ce qui est intéressant également, c'est que ces marchandises que j'ai donc achetées à Carrefour, elles sont mises à la fin dans un sac plastique. Sur le sac plastique, donc il y a un symbole de Carrefour et il y a marqué NF Environnement. Ce sac répond aux exigences de la marque NF Environnement, le label écologique.
Alors, bien sûr, on se dit, ça, c'est des démonstrations de spécialistes, de journalistes, etc. Voyons, tout simplement, ce qu'en pensent les gars qui conduisent les bahuts.
Donc là, on se trouve à Chambéry avec Gilbert, Stéphane et Antoine. Chambéry, c'est dans le bas de la vallée. Qu'est-ce que vous livrez en Italie ?
Beaucoup de bobines de papier, principalement d'ailleurs des bobines de papier.
Vous revenez à vide ?
Non. Nous, on recharge, ça peut être du papier aussi en palette, des bobines de papier aussi, du plastique. C'est-à-dire qu'on fabrique des bobines en Italie et des transporteurs italiens, voire nous, on ramène des bobines en France. Alors, on comprend pas, quoi. Alors que c'est les bobines qui font le même grammage, le même poids. Là. Il y a même une usine qui est à côté de chez nous, là, dans la banlieue de Limoges, et qui prend exclusivement ses bobines en Italie, alors qu'elle a une usine juste à côté de chez elle. Elle a une usine qui est à 10 km, elle prend de la marchandise qui arrive de pratiquement 800 km. Ça qui est dommage. Donc ça fait un trafic poids lourd qui ne devrait pas avoir lieu si c'était fait, s'il prenait de la marchandise juste à côté.
Pardon, Antoine ?
Oui, en fait, on fait du transport de bois. On a du bois ici qu'on emmène en Italie. Puis les Italiens, pareil, nous renvoient du bois aussi. Donc, on a un échange de bois. Alors, peut-être que les qualités ne sont pas les mêmes, mais on pourrait largement, peut-être, éviter ce type de transport. Ce qui rend aujourd'hui le transport inutile possible, c'est en fait que le coût du transport est très faible. Et il a été encore affaibli dernièrement par le fait que les chauffeurs routiers, ils vont avoir leur temps de travail qui va passer à 56 heures par semaine. Donc, on affaiblit le coût du transport. Et de fait, après, on peut, j'irais largement, faire des transports inutiles. Ça coûte rien, le transport.
Et pour quelle raison il a décidé ça, de Rubien ?
On a voulu mettre l'ensemble des chauffeurs français, même ceux qui ne font pas l'international, au même niveau, en gros, que les gens des pays de l'Est. Et c'est ça qui est anormal aujourd'hui.
Et vous, Gilbert, vous gagnez combien ?
Environ pour 200 heures. Nous, on est rémunéré pour 197,20 heures précises. 1300 en net, ouais, on va dire 1300.
Donc vous me gagnez à peu près 8500 francs par mois.
Voilà. Mais pour 200 heures de travail. 200 heures de travail.
Donc avec 50 heures hebdomadaires, grosso modo, hein, un peu moins de 50 heures hebdomadaires, vous êtes à 8500 francs pour du transport international.
Alors qu'on a quand même 40 tonnes qui nous poussent derrière, on nous demande d'énormes responsabilités et on n'est pas payé pour ces responsabilités-là. Il y a une forte pression du patronat.
La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, qui trépide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament. Le jour se lève et décline sur la route qui chemine, il doit pousser sa machine, car c'est là qu'est son usine. Ignorant les autres routes qui s'en vont en musardant, le routier n'a jamais le temps de se perdre dans les champs. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend. Si tu rêves un seul instant, si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps, il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant, dans ton gros camion hurlant. Le copain dans sa couchette rêve au-dessus de ta tête, si le temps te paraît long, allume une cigarette. Tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, la route est toujours la même pour livrer ton chargement.
Donc ça c'est chez Fernand, côté Grillon. Et ça c'est chez Fernand, côté camion. Et à 80 ans, vous continuez à faire le guide vers les sommets?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a 2 ans, je suis retourné encore au Mont Blanc. Donc, je l'ai fait 3 fois en 15 jours.
Et donc, le potager et la montagne, ça conserve alors?
Oui, c'est certain, oui. Oui, oui. Et puis, un petit coup de rouge de temps en temps, c'est pas mal. Le Mont Blanc, vraiment, depuis ici, on le voit pas, mais si tu vas au Vieux Cerveau, ça, on le voit. Et puis après, il y a le Mont Maudit, et puis le Mont Blanc du Tacul, qu'on peut voir depuis chez moi. Autrement, on a l'aiguillette des Ouches à côté, et puis tu as toute la chaîne des Fils de l'autre côté.
Donc là, on est dans votre jardin, sur le gazon, et vous avez fait un demi-tour, et vous êtes en fait encerclé par les montagnes ici.
Voilà, exactement. Et en contrebas de toutes ces hautes montagnes, on a d'autres montagnes et d'autres monts avec les sapins. On a beaucoup ici de faillards, on dit, mais c'est des hêtres, quoi. Des hêtres, des chênes, des bouleaux. Ça fait beaucoup de contraste avec les sapins. C'est très beau, d'ailleurs. Là, depuis 2-3 ans, on le voit très bien. Hein. Je peux te montrer, il y a des arbres qui sèchent, surtout les épicéas. Mais je pense que c'est le réchauffement de la planète et qui doit commencer à jouer beaucoup sur toute la nature.
Et où vous les voyez là, les arbres qui se dessèchent? Alors vous reculez là vers le tas de bois, puisque vous avez des réserves de bois.
Tu vois là, juste derrière le tilleul. On voit vraiment que c'est des arbres qui sont secs.
Ah, ça c'est nouveau.
Ouais. Et il y en a beaucoup aussi en face. Bon là, je peux pas te les montrer parce qu'avec le soleil qu'on a dans les yeux là. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que avant on s'apercevait que l'hiver les glaciers remontaient. Alors que maintenant, les glaciers, ils baissent comme la mer de glace. On s'est aperçu, là, ce printemps, cet hiver, la glace a baissé de 4 mètres. Le glacier a fondu, même cet hiver où il a fait froid.
Donc le glacier continue de fondre l'hiver?
Même l'hiver, oui. On comprend pas très bien, hein, mais voilà. Les glaciers, c'est foutre qui recule d'ailleurs. On voit bien la mer de glace, puisque maintenant il y a deux petits lacs juste au fond de la mer de glace qui n'existaient pas avant.
Et vous faites le lien entre le recul du glacier et là, sur la droite, on a donc quatre voies. C'est quatre voies qu'il y a là.
C'est-à-dire que quand j'ai construit, il n'y avait que deux voies. Hein, donc ils ont élargi la route depuis. Et en 59, il n'y avait pas le tunnel puisqu'il s'est construit bien après. Mais il a été inauguré en 65 par le général de Gaulle.
Oui. C'est un fait technique exceptionnel que nous consacrons aujourd'hui. C'est aussi un fait économique d'une importance considérable, car le passage sous le Mont Blanc relie directement l'Italie du Nord et la Savoie française. Nul doute qu'entre nos deux pays, les échanges de marchandises doivent en être accrus, que les visites ne deviennent multiples vers cette belle vallée, que le sang, la langue, et le sentiment apparent de si près à la France.
Bon, les premiers camions, on n'y a pas trop fait attention. Mais où ça commence à se gâter, c'est quand ils ont commencé à parler du deuxième tunnel. C'est le bonheur pour rouler, mais c'est pas le bonheur finalement pour nous, quoi.
C'est maintenant le président de Gaulle qui se lève.
Monsieur le président de la République italienne. Côte à côte, forte à notre aide, en 15 minutes, nous avons traversé le Mont Blanc, puisque j'ai le grand honneur d'être reçu par vous sur le sol de votre pays. J'adresse tout de suite à l'Italie le très amical salut de la France. Comme je suis à Courmayeur, je remercie les chers Valdotins de leur émouvant accueil.
Côte à côte, fort à nos 13. Ah oui, le tabellion a fait du talent, ce qui n'est pas le cas de tous. Et vous allez vous dire, c'est De Gaulle tous les jours. Bah oui, c'est les hasards des émissions et des reportages. On reste sur ce thème des déplacements de la croissance aveugle. Avec Philippe Luchtein, je vous rappelle qu'il est ingénieur et chercheur dans ce domaine.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce que moi, là, je peux dire que je souhaite qu'on utilise moins les transports. En même temps, en faisant ce reportage, j'ai peut-être fait 1000 km avec une voiture diesel en plus.
La première question à se poser, c'est quel est le besoin? Est-ce que nous ne serions pas prêts à payer notre pot de yaourt un petit peu plus cher? Et savoir que ce pot de yaourt, au lieu d'avoir occasionné 3500 km de transport par poids lourd, il a été produit localement ou dans un rayon de 100 km. Donc ce que je proposerais, c'est de réfléchir à une relocalisation de l'économie pour faire en sorte de minimiser les transports.
Mais alors, comment faire cette relocalisation alors qu'on a des espaces économiques qui sont de plus en plus élargis et que les taxes douanières sont amenées à disparaître, en tout cas au sein de l'Union européenne?
Alors, nous vivons pour le moment dans une économie de marché. Je pense qu'une solution aujourd'hui dans une économie capitaliste pour essayer de diminuer les transports, ce serait de prendre en compte les coûts environnementaux, c'est-à-dire de valoriser les coûts environnementaux à un niveau suffisant et d'introduire ces coûts dans les prix des transports et dans les prix de ce que l'on achète. C'est ce que les économistes appellent internaliser les effets externes.
Donc établir par exemple, comme en Suisse, une taxe concernant le nombre de kilomètres parcourus par les camions.
par tous les modes de transport, je dirais. Hein. Tous les modes de transport ont des nuisances environnementales, donc tous doivent intégrer dans leur prix les nuisances environnementales qu'ils provoquent. Mais si tous le font, on comprend bien que les modes de transport qui sont les moins nuisants auront un avantage, puisque les taxes qu'ils auront à payer au titre de l'environnement seront moins élevées. Donc du coup, ça incitera à utiliser des modes de transport moins nuisants.
Alors, comme solution finalement envisagée pour limiter ce trafic, la première solution, c'est de dire on taxe de manière à produire plus près du lieu où c'est vendu. La deuxième solution qui est envisagée, c'est celle du fret ferroviaire.
Le président de la République, après l'accident du tunnel du Mont-Blanc de 1999, avait dit on va mettre le paquet sur le fret ferroviaire. On n'en a rien fait en réalité. Mais non seulement on n'en a rien fait, mais la politique qui est menée actuellement est une politique qui consiste au contraire à faire baisser le trafic transporté par le rail pour le transférer sur la route.
C'est-à-dire que depuis quelques années encore, le trafic sur le rail non seulement n'augmente pas mais baisse, tandis que le trafic routier augmente.
Absolument. La SNCF se trouve avec un secteur fret ferroviaire qui est très déficitaire. Elle est gérée, elle veut se gérer comme une entreprise privée. Elle dit, moi, je ne peux pas garder un trafic déficitaire. Donc, que fait-elle? Elle se débarrasse de ses clients qui lui coûtent trop d'argent et le trafic correspondant qui était transporté par le rail passe sur la route.
Donc là, ça diminue encore au niveau du fret ferroviaire et ça va encore diminuer vraisemblablement?
Dans le plan mis en œuvre actuellement par la SNCF, il y a clairement une diminution du transport par le rail qui est planifiée, qui est annoncée.
Le point de départ de ce reportage, ça a été ce qui est arrivé au tunnel du Fréjus.
On retrouve bien là la question du dumping social. Hein. Pourquoi c'était des chauffeurs slovènes qui venaient faire du transport entre la France et l'Italie? Ben, c'est tout simplement parce qu'ils étaient certainement payés beaucoup moins cher que l'auraient été des chauffeurs français ou italiens ou allemands. Et puis, je crois, mais là je ne connais que ce que j'ai lu dans la presse, que un des camions transportait des pneus et qu'un autre camion transportait, je crois, de la colle.
Les pneus venaient des Pays-Bas pour être livrés en Italie.
Ben, je crois que c'est un exemple de plus qui corrobore les quelques exemples que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons une véritable folie des transports, et je pense que la première question à se poser, c'est avons-nous besoin de tous ces transports? La réponse est visiblement négative.
Alors, on nous a dit que la Suisse était un modèle en ce domaine du transport routier et ferroviaire, dans la proportion de ferroviaire et de routier. Donc, nous voilà en Suisse, après la Terre de Feu, le Grand Nord russe, nous voilà donc en Suisse, où nous rencontrons Georges Darbelay.
Donc là, on se trouve en Suisse. J'ai franchi alors le col entre
oui,
la France.
Vous avez franchi deux cols. Tout d'abord le col des Montets sur la France, et puis ensuite vous avez franchi un deuxième col, le col de la Forclaz sur la Suisse. Parce que la frontière se trouve pas au col, donc elle se trouve dans la vallée.
Là, on se trouve donc à la gare de Martigny avec Georges Darbelay qui travaille à l'association Initiative des Alpes. La Suisse, quand on en discute du côté de la France ou côté italien, on a le sentiment que la Suisse a un train, voire deux trains d'avance.
Effectivement, une initiative populaire a été lancée et elle a été acceptée par le peuple, chose rare, puisqu'environ une initiative populaire sur 10 est acceptée par le peuple et les cantons. Et elle prévoit trois choses. Tout d'abord, que le gouvernement lutte contre les nuisances du trafic routier à travers les Alpes. Deuxièmement, que le trafic de transit à travers la Suisse, le trafic des marchandises, se fasse sur le rail et non pas sur la route. Et troisièmement, que la capacité des routes à travers la Suisse, les routes donc à travers les Alpes suisses, ne soit pas augmentée. Donc par la suite, nous avons le peuple a de nouveau voté sur l'introduction d'une taxe pour les poids lourds et il a voté également sur le financement de deux tunnels alpins, de tunnels ferroviaires de base. Ce sont des tunnels de basse altitude, ce sont des tunnels très longs qui passent sous les Alpes.
Donc il y a eu un vote pour faire la priorité du rail sur la route, un article constitutionnel. Voilà. Il y a eu ensuite un vote sur la taxation des camions.
Oui.
Et ensuite, il y a eu un vote sur la construction des tunnels.
Absolument.
Des tunnels ferroviaires.
Absolument.
Et à chaque fois, le peuple a donné priorité au rail sur la route.
Absolument. Ah voilà, vous voyez justement maintenant un train, un long train de marchandises avec des voitures qui arrivent. Donc ce sont des trains qui viennent de France et qui vont jusque dans le nord d'Italie.
C'est un train qui porte des voitures.
Exactement. C'est-à-dire... Donc en fait, avant, très souvent, elles passaient par camion, ces voitures. Et maintenant, plutôt que de les transporter par la route, ils le font par le rail. Si on prend par exemple sur le trafic à travers les Alpes, il faut quand même dire qu'en Suisse, les deux tiers des marchandises sont transportées par le rail. Et seul un tiers par la route.
Deux tiers par le rail pour la Suisse, un tiers par la route.
Exactement, donc c'est l'inverse de ce qui se passe en France ou en Autriche, où c'est deux tiers par la route, plus des deux tiers par la route.
Mais est-ce que finalement le chemin de fer, c'est la solution miracle ?
Non. Il faut tout d'abord éviter de transporter à tort et à travers des marchandises en Europe. Ça, c'est le premier point sur lequel nous battons.
Vous avez des exemples de ces transports inutiles ?
Chaque année, l'Initiative des Alpes remet un prix. Ça s'appelle ça le prix de la pierre rouge du diable. Et ce prix, nous le remettons à des entreprises qui se distinguent dans ce domaine-là. Par exemple, nous l'avons accordé à Nestlé, qui transporte donc de l'eau minérale depuis l'Italie jusqu'en Suisse à travers les Alpes, comme s'il n'y avait pas assez d'eau de qualité à boire en Suisse. Nous l'avons également décerné à des grands distributeurs comme la Coop et Migros qui transportent de la crème produite par de bonnes vaches suisses. Donc ils la transportent par camion jusqu'en Belgique ou jusqu'en Italie où cette crème-là est transformée en crème chantilly, donc dans des bonbonnes sous pression. Et ensuite ils réimportent par camion toujours ces bonbonnes de crème pour les vendre dans des magasins suisses. Et donc finalement la crème entre la tétine de la vache et la table des ménages suisses a parcouru 2000 kilomètres.
Et pour revenir en Suisse ?
Pour revenir en Suisse, bien sûr.
Ça, en fait, ces cycles longs sont possibles seulement parce que
le transport coûte pas cher et parce que les coûts environnementaux et sociaux du transport ne sont pas intégrés dans les coûts de la route. Et nous devons nous battre pour que l'économie intègre ces coûts externes des transports. Donc les coûts de pollution, les coûts de santé, les coûts des accidents doivent être intégrés au coût de la route. Alors c'est pour ça qu'il faudrait que la RPLP, donc la redevance poids lourd, soit plus élevée qu'aujourd'hui. Elle n'est pas suffisamment élevée pour inciter les poids lourds à passer sur le rail. Le problème que nous avons, c'est je dirais principalement avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne ne veut pas. Nous avons un accord bilatéral donc avec l'Union européenne. L'Union européenne ne veut pas que cette taxe augmente trop vite.
Et donc, finalement, la mesure écologique là est bloquée par l'Union européenne.
Elle est bloquée en partie par l'Union européenne et en partie aussi bien sûr par des lobbies en Suisse, c'est clair. Mais je dirais l'Union européenne parfois omnubilée par sa liberté du transport des marchandises, elle veut pas toujours comprendre que cette liberté-là doit être conçue sur l'ensemble des modes de transport et pas seulement par la route. Donc nous les Suisses, nous sommes d'accord que les marchandises transitent par la Suisse, mais nous avons quand même le droit de le dire comment elles transitent par la Suisse.
Donc vous dites, dans un premier temps, on essaye d'éviter les transports inutiles, c'est inutile d'importer des eaux minérales en Suisse, mm-hmm. par exemple. Dans un deuxième temps, quand c'est nécessaire, il vaut mieux prendre le rail, sur des longues distances, il vaut mieux prendre le rail que la route.
Exactement.
Voilà, pour finir, on va retrouver Philippe Mühlstein. Je rappelle qu'il est ingénieur et qu'il fait partie du conseil scientifique d'ATTAC pour une conclusion provisoire, évidemment, sur ce sujet. Évidemment que le rôle des lobbies est très important, pas seulement en Suisse, mais au niveau, on l'a vu dans les reportages qu'on a fait à Bruxelles, au niveau, évidemment, de l'Union européenne.
Si tout ça c'est possible, c'est finalement parce que le coût du transport routier est pas extrêmement élevé. Sinon, on baladerait pas les marchandises comme ça à travers l'Europe.
Il est clair que si le coût du transport était plus élevé, une entreprise aurait moins intérêt à délocaliser, puisque certes, elle diminuerait ses coûts salariaux en allant installer son usine dans un pays où les salaires sont moindres, où les garanties sociales sont moindres, mais elle y perdrait parce qu'elle elle paierait les transports. Et en fait, le dumping social dans les transports renforce en réalité le dumping social dans les entreprises, le dumping social au niveau des salaires, au niveau des garanties sociales, d'où les 3500 kilomètres dans le pot de yaourt.
Quand on discute des transports, on a le sentiment que c'est presque la clé de voûte de la mondialisation.
Alors, clé de voûte, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, les transports sont vraiment au centre de la mondialisation. C'est-à-dire que les délocalisations d'entreprises, la recherche des plus bas coûts de main-d'œuvre, des plus bas coûts de protection de l'environnement dans tous les pays du monde ne peut avoir lieu que parce que il existe une offre de transport surabondante et une offre de transport peu chère. Si effectivement le transport était payé à son juste prix, et quand je veux dire juste prix, je veux dire à la fois un prix qui permette une rémunération et des conditions sociales correctes au personnel des transports, et en même temps un prix qui prenne en compte les conséquences environnementales des transports, c'est-à-dire les coûts de la pollution, les coûts du bruit, les coûts de l'occupation d'espace, à ce moment-là le prix des transports serait plus élevé et la politique de délocalisation tous azimuts serait en partie mise en échec, effectivement.
Il y a un dumping social, et pour vous, est-ce qu'il y a également un dumping environnemental ?
Le dumping environnemental dans les transports, il est lié au fait que les modes de transport ne payent pas leurs coûts environnementaux, ne payent pas pour la pollution qu'ils occasionnent. Et ces effets-là, que les économistes appellent les effets externes, ne rentrent pas en ligne de compte dans le prix des transports. C'est donc une forme de dumping environnemental, si vous voulez. Les conséquences sont absolument considérables. Je prendrai qu'un seul exemple. Les transports en France, c'est le secteur le plus émetteur de gaz carbonique. Contrairement à ce que l'on pense généralement, plus que l'industrie. Les transports émettent environ 28% des gaz à effet de serre émis en France. Et ce qui est plus grave encore, c'est que c'est le secteur dont les émissions croissent le plus vite. Depuis 1990, les émissions des transports ont cru de 23 ou 24%. Le problème le plus crucial pour l'effet de serre, c'est un problème de transport.
Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most, he refused to be a dog. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato, I will squeeze out a pit bull. Pit bull. I'm a pit bull. Pit bull. I never feel sadness. Never feel pain. With my cunning and with my stealth, I don't need a brain. I'm hit and I'm fit. When I bleed like James Cagney on the screen. I shit and I spit and I never, never quit. I'm proud, I'm happy, cause I'm not a human being, I'm a bitch.
Alors, la croissance ou la vie? On aura la réponse demain. Demain, notre président sauve la planète et va chercher la croissance en même temps. Avec les dents. Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Christine, Laure, Jean-Paul, Jean-Pierre, Antoine, Stéphane, Gilbert, Patrick, Yvonne, Massimo, Monsieur Claude Dallieré et Philippe Mulstein. D'autre part, nous vous signalons que demain, jeudi 25 octobre à 18h, les éditions Danger Public organisent une rencontre avec Guillaume Podrovnik et Antoine Silvestri, auteur de la bande dessinée favorite de la basse J'y suis. Tout doit disparaître, non à la consommation, ça tombe bien. La rencontre aura lieu à la librairie La Martinière,
17 rue Jacob dans le 6e à Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et c'est Christophe Humbert qui se tient près du répondeur attendant vos messages, coups de gueule et coups de cœur au 01 56 40 37 37. Réclame.